much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune. Et coucou les arpenteureuses du samedi!
Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, c'est le retour de Lilia parmi nous, qui revient du fin fond de l'Amérique latine. Malheureusement, le trio des arpètes est encore incomplet puisque notre Anis préférée n'est pas là, mais on sera enfin réunis toutes les trois le mois prochain.
Le 26 avril dernier débutait la saison 3 de Drag Race France. Mais ça y est, depuis qu'on voit des shows drag queens sur France TV, c'est trop mainstream pour les arpètes. Alors on a décidé de partir à la rencontre d'autres formes de drag.
Spontanément, on a pensé au drag king, puis on a découvert qu'il existait plein de performeuses entre les deux, en dehors ou autour.
Drag king, drag queer, drag things, club kid, drag clown. Notre arpentage du jour va vous emmener gratter le vernis pailleté du drag pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces shows hautement politiques.
Mais le drag, hors d'une méthode d'appâtage de chaland, qu'est-ce que c'est? Une personne qui, via un personnage de sa création, va délivrer une performance artistique amplifiée d'un genre. Une transformation, souvent d'un genre à un autre, mais pas seulement. Sur l'origine du terme drag, tout le monde n'est pas d'accord. Ça pourrait signifier « dressed as a girl », mais pourrait aussi venir de l'anglais « to drag », laisser traîner pour faire référence aux longues robes des drag queens.
Et la différence entre drag et travestissement, c'est que le drag est par essence théâtral et ne peut exister sans une actrice, une scène et un public. Vous nous dites si on se trompe.
Pour éclairer nos lanternes dans l'exploration du drag, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Faune, drag sans étiquette.
Salut.
D'Amanita Aura, drag queer.
Salut.
Et de Louis, alias Small Toy Disorder, drag king.
Salut.
Le livre du mois, c'est un essai signé Luca Greco, intitulé « Dans les coulisses du genre, la fabrique de soie chez les drag kings », paru aux éditions Lambert Lucas. Luca Greco est prof de sociolinguistique à l'Université de Lorraine et ses recherches se trouvent, pour citer la quatrième de couverture, au croisement de la linguistique, de la sociologie, de l'anthropologie et des études de genre. Si vous n'aviez pas encore compris que nous étions partis sur un sujet pointu, sachez que nous avons eu le plus grand mal à nous procurer son livre puisqu'il était dispo dans 3 librairies en France. Merci aux libraires de la Nuit des Temps à Rennes de nous l'avoir envoyé.
Histoire de perturber un peu cette ambiance universitaire, nous avons comme à notre habitude déchiré le bouquin en autant de parties que de participants et participantes à l'émission, soit 5 aujourd'hui. Et maintenant, on va faire la restitution de nos lectures tous ensemble, c'est le concept de l'arpentage. Bref, vous connaissez la chanson. Jingle.
Coucou mes petites arpètes, ça me fait trop plaisir de vous retrouver dans ce studio après 6 mois, même si vous m'avez accompagnée pendant mon voyage avec des podcasts de qualité qui me rendaient fière comme une maman lama. On commence cet arpentage avec le titre du premier chapitre, une entrée en matière. C'est le titre. Alors de la matière de type granitique, hein, parce que j'ai eu du mal à lire les runes de ce truc. L'auteur s'inscrit dans le champ de recherche de la sociolinguistique et de l'ethnologie et étudie donc l'accomplissement du genre sous l'angle du langage. Alors tout de suite, langage, on pense aux débats sans fin et surtout sans fond qu'on a vu sur les plateaux télé concernant l'un des plus grands fléaux de notre temps, l'écriture inclusive. Bon, moi j'aurais dit les terfs et le céleri rave, mais bon, chacun son truc. Mais le langage ici ne se limite pas au point médian et comprend les paroles, les gestes, les postures, la voix, les regards, les vêtements. Chaque aspect du langage est utilisé pour exprimer et façonner son genre, et c'est ce que Luca Greco étudie pendant 4 ans dans les ateliers de drag king à Bruxelles de 2008 à 2013. La thèse de l'auteur, c'est que le drag revient à changer son corps et son genre par le biais du langage corporel et en faire une œuvre politique et esthétique. Je le cite, page 14. « Si la langue est fasciste, comme disait Roland Barthes, parce qu'elle porte les traces du pouvoir et de la domination, La langue est aussi cet espace au sein duquel nous pouvons agir pour reconstruire notre vécu, notre existence. Plus précisément, le drag king vient déconstruire l'idée d'une masculinité type, innée, et montre qu'être homme est performatif et construit. D'ailleurs, ce serait trop restrictif de cantonner le drag à la performance scénique, et c'est pour ça que l'auteur est allé observer les ateliers drag, donc tout ce qui se passe avant le show. Il analyse que ce n'est pas pour paraître, mais pour donner libre cours à un être encore inexploré qu'on participe aux ateliers drag king, et drag en général. Il faut aussi que je parle d'une interrogation qu'on a eue avec Enora et Alice dès la préparation de cette émission, en grande fanat de Drag Race que nous sommes. Pourquoi les drag queens sont plus visibilisés que les drag kings, drag queer et toute autre forme de drag? Est-ce que c'est trop subversif encore aujourd'hui que des personnes assignées femmes veuillent endosser le langage du privilège masculin? Et donc, ça ne peut pas être divertissant parce que c'est jugé encore trop dangereux pour l'ordre établi? Ou alors, est-ce que, les drag queens ont été davantage persécutées parce qu'elles remettent en cause la masculinité et sont donc aujourd'hui plus visibilisées? Alors là-dessus, l'auteur donne un premier élément de réponse. Les drag kings participent à la déstabilisation de la masculinité en tant que pouvoir dominant. Être drag king, selon lui, c'est opérer un travail de résistance de l'intérieur qui interroge la masculinité comme propriété privée des hommes. Donc, on est bien dans les contraintes habituelles imposées par le patriarcat aux personnes sexisées, super. Les femmes qui lisent sont dangereuses et les dragues qui king sont priées de rester dans les coulisses. Voilà pour ce début d'arpentage un peu détricoté. Le livre était trop pointu pour que je fasse une transition cliffhanger vers ta partie, mais du coup, tout simplement, de quoi tu vas nous parler dans la suite Faune ?
Moi, je vais vous parler de définition, parce que la partie que j'ai récupérée, c'est l'histoire et la société de la catégorie drag king. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire parce que en fait, c'est déjà une chose qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Mais par contre, je vais reprendre des mots. Notamment, on ne parle plus de transsexuels, mais de personnes transgenres. Parce que transgenre est un adjectif et non pas un nom, et donc ne définit pas la personne en tant que telle. Et du coup, y a plein de gens qui se disent « Ah, mais si on ne peut plus dire transsexualité, on dit quoi ?» En fait, on dit transidentité. Et dans le texte, qui est belge, cette distinction, elle n'est pas faite et elle n'est pas... Et comme le texte est un peu vieux, en fait, c'est aussi quelque chose d'assez récent. Donc, je voulais quand même le souligner parce que c'est important. Moi, ce qui m'a parlé... dans cette partie, c'était de retourner un peu aux origines du travestissement et de faire la différence entre la pathologisation, le kink, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui aiment se travestir dans des actes sexuels et qui n'ont rien à voir en fait avec l'art du drag de manière générale, que ce soit kink, queer, créature, etc., etc. La performance de drag n'est pas une performance qui a pour but d'exciter le public, de l'exciter sexuellement, de créer... ça peut l'être entre deux personnes qui font du drag si elles le veulent, mais ça reste quelque chose de très personnel. Le texte amène aussi à la question de ce qui est queer, et parce que le drag king, finalement, naît beaucoup d'ateliers féministes, non pas féminins, mais féministes, donc sur la recherche de la déconstruction des oppressions dues au patriarcat. Et du coup, ça explique aussi la différence entre le queen et le king, c'est que ça vient pas du même endroit, ça vient pas des mêmes espaces, et du coup, c'est pas la même manière de s'exprimer, et c'est pas tout à fait la même histoire et les mêmes milieux sociaux, même s'ils se retrouvent, et même s'il y a eu des drag kings dans les ballrooms, et des personnes qui faisaient du queen dans les milieux féministes qui faisaient du drag. Donc c'est pas lié aux gens, mais par contre, c'est lié à des contextes sociaux, et donc le drag King se retrouve, est issu d'une pensée souvent féministe et queer. Et il y a une définition de la queerness qui est faite par Judith Butler, et que je ne vais pas reprendre, mais qui en gros rappelle que queer, ça veut dire tordu, et c'était aussi une insulte des personnes homosexuelles sur les personnes homosexuelles. Donc, sur les personnes qui étaient trop différentes et qui ne rentraient pas dans le cadre de ce que devait être l'homosexualité ou qui n'avaient pas les revendications de certaines pratiques. C'est-à-dire que quand on se bat pour le mariage pour tous, on se bat pour obtenir des pratiques hétéronormatives et qui sont du coup reprises aussi dans les milieux homo, ce qui est complètement OK et compréhensible. Mais là-dessus, la queerness va... à la base, récupérer tous les gens qui sont laissés marginalisés par ces pratiques-là et qui disent que, ben, en fait, oui, je suis différent et du coup, mes pratiques sont différentes et je veux avoir le droit d'exprimer mes pratiques différentes dans mon identité différente, en dehors de l'hétéronormativité et aussi de l'homonormativité, parce que finalement, on crée toujours des nouveaux schémas qui vont finir par devenir des normes et qui vont obliger d'autres gens à devenir comme nous. Et du coup, là, donc ça, c'était la deuxième définition que j'avais envie d'ajouter. Et aussi que la queerness, et que aussi on parle d'intersectionnalité et que de jamais oublier que le féminisme queer se veut un féminisme intersectionnel. Et donc de réfléchir à toutes les questions d'oppression et que ce n'est pas juste une question de genre, c'est une question de milieux sociaux, c'est une question d'origine, de couleur de peau, de racisation, de handicap visible ou invisible, de grossophobie. Donc tout ça, c'est une carte qui est hyper large et qui porte aussi les milieux féministes queer et qui rejaillissent dans le milieu drag king, et pas que, bien évidemment, mais qui sont très présents dans les réflexions, en tout cas, des drag king et qui s'est un peu amené dans ce chapitre-là, même si ça ne va pas jusqu'au bout de cette pensée-là. Mais voilà, moi, j'ai envie de pousser la question un peu plus loin, parce qu'il fait une ouverture sur c'est quoi la différence entre le queen et king, et moi, je n'ai pas la fin de cette partie et de cette explication. Et il n'y en a pas, mais il y en a quand même.
Alors, moi, j'ai la partie du livre qui va de la page 73 à 100, et mon extrait, en fait, il se découpe en deux parties. Je vais être moins spontanée.
Pas de souci.
Moi, la première partie, elle est sur les ateliers de drag king. On entre vraiment dans les coulisses du genre. Et les ateliers, en fait, ils sont un laboratoire dans lequel chacun apprend à se fabriquer un personnage masculin, son propre king, qui va varier suivant les désirs et ses aspirations. Il y a plusieurs façons de choisir son personnage. L'atelier, quant à lui, reste structuré en trois parties. C'est relativement très méthodique. Et plusieurs techniques sont apprises, comme vous avez le bending, se serrer la poitrine, ou le packing, se créer un faux pénis avec du coton et puis une capote, par exemple. Mais en vrai, aucune technique n'est imposée. Il ne faut pas oublier aussi les enjeux. Ils ne sont pas seulement méthodologiques, mais on s'engage sur une dimension politique, comme l'a dit mon comparse Faune, lorsqu'il s'agit de reproduire et de déstabiliser, reconfigurer la masculinité et la structure sociale. On le fait avec un partage de connaissances et d'outils. Le do-it-yourself, je trouve qu'il est beaucoup plus prisé chez les drag kings peut-être que dans la communauté drag queen. Le bricolage. Les performeuses ne sont pas aussi nécessairement des personnes qu'on assigne femmes à la naissance. On peut retrouver des hommes, des femmes, des personnes travesties, des personnes transgenres, des queers. Il s'agit de contrer les dimensions idéologiques d'une vision essentialiste et binaire du genre. Ma deuxième partie de ce petit extrait, elle porte sur la construction et la présentation du soi. Il faut imaginer au sein de l'atelier Drag King, tout d'un coup, la salle est plongée dans le noir et il y a seulement une ampoule qui s'allume. Elle est juste au-dessus de vous. Seule devant votre miroir, on procède à un processus de fabrication identitaire qui va s'ajouter tout au long de leur vie, que ce soit au sein de l'atelier Drag King, hors scène drag show ou même dans votre vie réelle. Pour cela, il y a le rôle du langage et dans le contexte de cet ouvrage du Drag King, ça inclut plusieurs ressources. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi les voix, la geste, les mouvements, les postures, les regards et l'événement et l'espace.
Amanita, du coup, tu avais la fin.
Oui, moi j'ai la suite.
Enfin, la suite, parce que c'est moi qui ai la fin, en fait.
Alors, moi, j'ai la suite, effectivement, de l'atelier Draking. Et ce qui moi, m'a plu, parce que du coup, je ne savais pas du tout sur ce que j'allais lire. Et en fait, moi, j'ai participé à des ateliers Draking, en fait. Et du coup, ça m'a vraiment parlé. J'ai pu voir à quel point ça pouvait ou pas me faire écho à ma propre expérience. Moi, en fait, la partie du livre, j'aimerais en parler de la forme et le fond. Parce que même la forme, en fait, je ne savais pas forcément non plus si elle était très universitaire ou quel type de livre ça allait être. Et il y a déjà, effectivement, de l'écriture inclusive. Et moi, je pense que c'est la première fois que je lis un livre avec de l'écriture inclusive, en fait. Alors, déjà, moi, je lis très peu. Donc c'était vraiment un très gros exercice pour moi de lire un livre tout court, de lire un livre comme ça. Et en plus, je me suis dit, il faut vraiment que je comprenne et que je puisse en restituer quelque chose parce que ça me touche personnellement et j'ai envie de faire passer des messages. C'est aussi pour ça que je fais de la scène, pour faire passer des messages, et aussi pour ça aussi j'ai accepté l'invitation. L'atelier de draking que moi j'ai déjà fait, c'est avec un draking, on va dire, il utilise lui-même le terme de vieux draking, où en fait on n'a pas fait de maquillage par exemple, ou quasiment pas. Enfin, on s'est fait de la fausse barbe, mais on n'a pas fait du maquillage comme on peut voir maintenant sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et donc il y a des passages qui sont très. On va dire assez philosophique, et des passages où du coup il y a des conversations entre les personnes qui font l'atelier, donc des personnes qui sont considérées comme novices. C'est à la fois plus agréable à lire, parce que moi je préfère lire les discussions, mais en même temps la façon dont le livre est écrit, c'était pas évident de le lire et de le comprendre. Ça pour parler quand même de la forme du livre aussi. Mais du coup, moi, ça m'a vraiment rappelé qu'effectivement, pendant ces ateliers-là, on passe par beaucoup d'émotions différentes. Il y a des introspections, la partie où les personnes racontent des histoires, des expériences personnelles qui font écho aux nôtres. On s'est dit « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu la même chose ». Et donc, plutôt en début d'atelier et après vers la fin de l'atelier où, on passe à la partie où on se king. Où là, on passe aussi par plein de choses, plein d'émotions différentes. Et il y a deux phrases que j'aimerais citer. Alors, moi, je trouve que c'est, en tout cas, la meilleure phrase de toute ma partie. voilà, et qui représente assez bien, finalement. Ce qu'on peut se dire dans un atelier, c'est « J'ai une bite dorée ». Voilà. J'ai une bite dorée. Et c'est vraiment marrant parce que d'un côté, c'est vulgaire, il y a le mot bite, il y a le fait que ça peut être souvent des personnes qui n'ont pas de pénis. Donc j'ai une bite et en même temps, elle est dorée. C'est incroyable. Voilà. Je retrouverai la phrase exacte dans le livre, mais en gros, le moment où, au début, la personne experte va nous poser des questions. Quel est ton personnage? Qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Et au fur et à mesure qu'on essaie des choses, on se rend compte que le personnage vient à nous. Plutôt que nous, on prend en fait, le fait de commencer à se mettre de la barbe. En fait, mais en fait, là, j'ai vraiment une tête à m'appeler Pedro, par exemple. Ça fait, comme on dit à quelqu'un, t'as vraiment une tête à t'appeler comme ça, tel prénom, ça existe vraiment, il y a vraiment des études par rapport à ça, et c'est vrai que je me suis rendu compte, moi par exemple là, ça fait à peu près un an que je fais du drag, et je savais pas trop où j'allais, et je me rends compte que c'est en faisant qu'au finalement, en avançant, qu'on voit vers où on va, finalement, au fur et à mesure, comme si on avait une petite lanterne sur un chemin. Et en fait, on ne sait pas forcément où on va. Et au fur et à mesure, on avance. En fait, on découvre le chemin où on va. Et potentiellement, la lumière aussi est de plus en plus lumineuse. Et on voit des fois beaucoup plus loin où on veut aller. Voilà.
C'est trop une belle métaphore.
Mais ouais.
Et ça me parle aussi, je pense que ça parle pour beaucoup de pratiques artistiques, en fait. Le truc de découvrir en faisant. Enfin, c'est ouf. Enfin, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la forme du livre qui était vraiment dure à lire. En fait, ouais, les, comme tu disais, les parties de dialogue sont réécrites texto avec les bugs des gens, les petits bégaiements, les redites. Du coup, c'est très, très lourd à lire, mais aussi très intéressant. Moi, ce que j'en retiens principalement, c'est avant tout l'impact énorme qu'ont les ateliers drag, et ça à plusieurs niveaux, un impact positif. Lucas Gréco, donc l'auteur, fait beaucoup d'allers-retours entre les différentes échelles sur lesquelles le drag a un impact positif, à savoir l'échelle individuelle pour les performeuses, à l'échelle collective du groupe de l'atelier et à l'échelle politique par la simple existence de ces groupes et par la performance drag publique. On ressent bien les bénéfices individuels sur les participants et participantes aux ateliers drag quand Lucas Gréco rapporte qu'elles y explorent leur genre, leur propre genre, expérimentent avec leur corps, apprennent de nouveaux skills et évoluent dans leur perception de leur genre et du monde. Et j'ai bien aimé découvrir que des postures découvertes pour le show drag sont emportées par les performeuses dans leur quotidien. Je vous lis par exemple un petit passage avec une participante qui s'appelle Joy. Dans l'entretien de Lucas, lui pose la question de la frontière entre l'atelier drag et sa vie quotidienne, s'il y a une porosité ou pas. Et Joy lui répond « Ça m'a aidé à me ressentir vraiment mieux parce que tout ce qui est geste de drag king qu'on associe à des gestes dans lesquels on aime bien se sentir, les deux pieds bien droits par terre par exemple, ça effectivement, ça nous fait se sentir mieux et se sentir en possession de l'espace, le droit d'être là et tout. » J'ai trouvé ça vraiment fort parce que, oui c'est vrai, j'arrive à me projeter de un perso... Comment on dit en français ? Incarner personnage masculin et du coup t'es dans des positions super confortables et qui donnent du pouvoir, je pense. Enfin, ça m'a vraiment touchée, ce passage-là. Au-delà de cette échelle individuelle, les ateliers sont bénéfiques collectivement à l'échelle du groupe, entre pairs et dans cet espace de non-mixité. A priori, ça donne lieu à beaucoup d'échanges, que ce soit des conseils make-up ou des réflexions militantes. C'est des ateliers qui font vraiment communauté. Et la troisième échelle d'impact des ateliers drag, c'est évidemment l'échelle politique avec le show drag comme outil de lutte. Le livre de Lucas Gréco se termine sur une ouverture intitulée « Vers un post-king », qui, je pense, va permettre une bonne transition avec la partie discussion de l'émission. Ce que j'ai réalisé en lisant cette partie, c'est qu'en fait... Enfin, j'ai l'impression que quand quelque chose d'underground et de subversif progresse vers le mainstream... C'est comme c'est le cas ces dernières années avec le drag queen, c'est que du côté underground, on est déjà un peu plus loin dans le subversif et dans la réflexion. On a déjà plus avancé et du coup, c'était super intéressant de découvrir ça, ce terme de post-king et de tout ce qui pouvait se cacher derrière. Lucas Gréco donne la définition qui avait été donnée par Albert Stamm en 99 du drag king. La définition, c'est une femme qui s'habille d'un costume manifestement masculin et performe théâtralement dans ce costume. Et Lucas Gréco souligne qu'aujourd'hui, cette définition, elle devient de plus en plus problématique. Il aborde très succinctement les nouveaux types de drag qui ont émergé ces dernières années, female to female, female drag queen, bio queen, faux queen ou femininities, pour aborder des performances de femmes qui revendiquent une conscience politique. Il mentionne aussi le côté post-king des drag kings de Bruxelles qui sont selon lui dans le post puisqu'ils performent des masculinités non dominantes comme des hommes vieux, des homos, des nerds, des poilus de la guerre 14-18. Alors, je serais bien incapable à ce stade de donner une définition du post-king ou de ce que peut être le drag aujourd'hui, mais avec cette fin de livre, je pense commencer à discerner ce que le drag n'est plus. C'est plus des hommes qui performent une féminité outrancière et plus des femmes qui performent une masculinité hégémonique. On est bien au-delà de cette binarité et le drag semble prendre une fonction de laboratoire du genre tout en dénonçant les incarnations genrées et binaires de notre système.
Oh, c'est beau.
Wow.
Incroyable. C'est la fin de la restitution collective du livre « Dans les coulisses du genre, la fabrique de soi chez les drag kings » de Lucas Gréco. Et nous allons donc continuer à dessiner les contours de ce qu'est le drag king et toutes les autres formes de drag aujourd'hui avec nos invités, juste après une pause musicale avec Insortable de Le Talus.
Moi j'entends que l'oreille droite.
Moi j'entends tout. Putain,
je vois rien avec mes lunettes surtout. Et vous nous donnez le go, c'est quand ?
C'est là.
Vite teinté, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go tout parti, gender paniqué de sortie. Hey, j'suis 12 fois amoureux, j'sais même plus où poser les yeux. Ma team c'est des rageux, que soit leur manière, sont tapageuses. Et elles sont insortables, émotions instables, flow imbattable, tension palpable. Quand on arrive en villa, c'est pas pour le shopping, non. Gaffe à ta fortune, égare au mass spreading. Bienvenue dans l'hémicycle des dissipés du fond de la classe. Tricheuse, imprévisible, souvent seulement en manque de cash. Difficilement divisible, langoureusement illicite. Ça fique et sodomite, on est les rats du récidiviste et vite inter. Dans la Twingo Tati, on débarque sur terre-terre. Tu peux pas tester, on est de terre. Casquette et lunettes noires, paire de petites bûches sur la plage arrière. Let's go tout parti, gender paniqué de sortie. Posé dans le bâtiment, barricadé, serrure géchant. Ça fume le CBD.
Vous êtes de retour dans les Arpèdes sur Prune 92 FM. Nous venons d'écouter Insortable de Le Talus. Juste avant, nous avons fait la restitution de l'essai Dans les coulisses du genre, la fabrique de soie chez le Drag King de Luca Greco. Nous sommes toujours en compagnie des performeuses drag Amanita Aura, Small Toy Disorder et Faune, avec qui nous allons pouvoir poursuivre nos réflexions dans la partie discussion de cette émission.
C'est quoi les élections régionales ? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
Bon, ça y est, on a fini la rando d'arpentage, on range les piolets et on sort les charentaises pour la partie discussion. Maintenant, on va plutôt parler de vous, de vos pratiques et de votre vécu de l'art du drag. Faune, juste avant, tu commençais à parler un peu du collectif dans l'art du drag king, c'était super intéressant. Est-ce que tu pourrais développer ?
Du coup, moi, j'ai pas eu la partie du livre qui parlait des échelles. Et en fait, le drag king est une échelle de révélation individuelle. Donc, je pars à la recherche de moi-même, je découvre mon drag. Mmh. Pas forcément king, on va arriver à ça, mais je découvre mon drag. Mais par contre, dans la pratique du drag king, en fait, souvent, on a un apprentissage qui est très collectif et qui est très communautaire. Là où, peut-être plus chez les drag queens, il y a une transmission de mère-fille, où nous, on se construit en commun. Et du coup, il n'y a pas forcément des filiations de la même manière. C'est plus on est frères et sœurs, on fabrique plus un rôle d'adelphitude direct parce qu'on construit ensemble et on découvre ensemble et on barbouille et on essaye. Et le politique, en fait, et le politique, il est incarné par déjà notre solidarité et la manière de fonctionner ensemble et d'être en cohésion, je pense, avant même d'être arrivé sur scène, en fait. C'est par la communauté qu'on crée en devenant drague. Et je pense qu'il y a un aspect politique hyper important là-dedans, de soutien et d'entraide et de découverte et de faire du lien.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Fawn, qu'on fait des ateliers king entre nous, de déconstruction. C'est beaucoup orienté politique et découverte des personnages, mais j'en ai jamais vu des ateliers de drag queen. Je trouve pareillement aussi que c'est plus transmis dans un cercle fermé. Mais je trouve la symbolique quand même assez forte. La tradition mère-fille, transmettre quelque chose de mère en fille, ça fait un peu féministe. Et par exemple, je relis ça par rapport aux entreprises. Quand on parle de « je transmets mon entreprise de père en fils », et là, on transmet quelque chose de mère en fille. Il y a ce côté-là chez Drag Queen.
Il y a un patrimoine.
Oui, voilà, c'est ça, le patrimoine est féministe.
Mm-hmm. Alors que
quand même.
Je sais pas, j'ai plus l'impression qu'on construit un patrimoine commun. Et qu'on le diffuse, quoi. Et qu'il se diffuse de manière très bazar. Enfin, parce que nous, en plus, on a une histoire commune, tous les trois, qui n'est pas une histoire commune, mais en fait, on est quand même reliés par l'histoire du drag nantais, en fait. Si tu as envie de parler de... Peut-être toi, comment tu as commencé, Amanita ?
Oui, alors, moi, ça fait un peu plus d'un an que je fais du drag sur scène. Ça faisait déjà bien longtemps que je voulais faire de la scène tout court. Mais en fait, déjà au début, je me suis dit, je ne peux pas être drag parce qu'il n'y a que des drag queens. Parce que quand j'ai découvert ce que c'était le drag, c'était via Drag Race sur YouTube. Et je me suis dit, c'est génial. Mais en fait, j'ai dit, c'est dommage, je ne peux pas en faire parce que je ne suis pas un homme. Bon, après, le fait est que moi, je m'identifie en tant que personne non-binaire et gender fluide. Mais du coup, dans le premier atelier drag king que j'ai fait, parce qu'en fait, j'en ai participé à deux ateliers où le premier atelier, on a pu faire que le cercle de parole, mais qui était finalement pour moi la chose la plus importante que j'avais besoin de toute façon à ce moment-là. C'était vraiment la discussion et on était très nombreux, nombreuses. Et quand c'est arrivé à mon tour, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit, oh, j'espère que vous allez réussir un peu à me comprendre parce que là, vraiment, avec tous les partages qui ont été faits de nos vécus, en fait, de comment on a été éduqués par rapport au genre, est-ce que nos parents nous ont imposé d'être éduqués comme une fille ou comme un garçon, les jouets, les choix d'études, etc. Et en fait, on se rendait compte à quel point ça pouvait nous influencer. Sur à peu près tout en fait et je me souviens avoir dit à ce moment-là je me dis si j'essaie de me maquiller et que de faire du drag et d'être drag queen, on va dire oh mais en fait t'es pas une drag queen, t'es juste une femme trop mal maquillée ou trop maquillée en fait. Et je me suis dit, c'est pas juste. Je dis, moi aussi, j'ai envie d'avoir des vêtements incroyables, d'avoir plein de maquillage, d'être un personnage que les gens vont regarder. Ah, mais en fait, fait rêver. En fait, j'ai envie de faire rêver les gens. Et aussi de leur faire poser des questions, parce que le drag, c'est politique. J'aime amener un sujet, que les gens, se posent des questions. En fait, je dis, qui est potentiellement plusieurs émotions, qu'on repart avec quelque chose, en fait. Quelque chose sur le bras de ce qu'on a vu. Et du coup, moi, quand je suis arrivée à Nantes, il y a un peu moins de 2 ans, vraiment, quelques semaines après, on m'a dit là, il y a une soirée, il y a les paillettes parties, c'est super, il y a du drag, viens, c'est un peu... C'est un peu la souris du mois, machin. On y va, je fais OK, bon bah super, ça tombe pile poil, j'arrive, OK, super. J'en avais déjà vu en vrai dans des cabarets sur Paris, parce que moi j'ai passé quasiment toute ma vie en région parisienne, pas que, mais surtout en région parisienne. Donc je suis allée au Palais de Parti, j'ai fait c'est génial, j'ai dit en plus, je me dis ça peut être un tremplin, peut-être que je pourrais essayer, moi, la prochaine fois, de monter sur scène quand je serai prête, je ne sais pas, dans 1 ou 2 ans. C'était au mois d'août 2022 et au mois de décembre, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux qu'on pouvait s'inscrire et je me dis, en fait, c'est le moment, c'est pour janvier, je ne sais pas du tout comment je vais m'appeler, je n'ai pas de personnage, alors que c'est la seule chose qui avait besoin, c'était d'avoir un personnage. Pas besoin d'avoir... Je dis, je ne sais pas qui je suis, je n'ai pas de nom, je ne sais pas. Alors du coup, je me suis inscrite et il m'a dit, par contre, là, à la date limite, dans 2 semaines, tu me donnes un nom quand même. Et là, j'étais totalement en panique, j'ai passé presque une nuit blanche, je pense, à chercher mon nom. Vraiment, et dans les sonorités, et en fait, je ne pensais pas m'appeler comme ça, hein, mais voilà, bon. C'est un peu comme dans le personnage qui vient à nous, et quand je reprends le livre, il y a 2 phrases, il y a la phrase de « quelque chose qui s'impose à toi ». C'est en fait, finalement, le nom qui est venu, en fait, qui m'a choisi. En fait, parce que je l'ai eu, après j'ai dit « non, je ne vais pas prendre ça », j'ai recherché pendant 2 heures, en fait, j'ai dit « non, il est venu ». Je le garde, il est venu à moi. Et il y a un autre passage aussi qui dit « Le personnage n'est pas un point de départ qui structure les activités d'atelier, il prend forme. Et sent peu à peu dans la phase de maquillage. Il demande un temps de réflexion. » Que même si on a envie de faire de la scène, ça demande un temps de réflexion. Et en fait, des fois, c'est quand même les choses qui viennent à nous. Genre, c'est en essayant, même par exemple pour le maquillage, je me maquillais plus depuis très longtemps. À part pour Halloween, en fait, je me maquille pas. Même de maquillage de tous les jours, je me fais des gros trucs pour changer la forme de mon visage et être quelqu'un d'autre et potentiellement pas quelqu'un, mais quelque chose. C'est pour ça que moi, je veux pas avoir l'étiquette de drag king et de garder drag queer pour avoir le choix de faire ce que je veux, de pouvoir ressembler à ce que je veux, parce que quelque part, c'est une échappatoire de ma qualité d'être humain, de m'échapper pas seulement de le genre qui m'a été attribué à la naissance, mais de tout simplement ma condition d'être vivant. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Amanita Aura. Amanita, qui est en fait le nom latin de la famille des Amanites, donc les champignons.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que tu as commencé, moi, la première fois que je t'ai vue, c'était à la paillette partie.
La fameuse, du coup ?
Bah, bien sûr, la première, la toute première. Et en fait, on t'a défini comme drag king avant même que toi, tu sois défini comme drag king. Et oui, je pense que ça, c'est des biais qu'on a parce qu'on voit une personne sexisée sur scène qui fait du drag et du coup, on la catégorise comme drag king. Et c'est un biais qu'on essaye aussi d'arrêter d'avoir parce que c'est pas juste et que c'est pas du tout bien. C'est très problématique comme réflexion. Mais on l'a catégorisé. Et ce qui est intéressant avec la paillette partie, c'est que Small Toy Designer et moi, la première fois qu'on a préparé un numéro ensemble, c'est-à-dire ma toute première scène, c'était pour la paillette partie, une paillette partie qui a été annulée. Et après, Amanita a performé pour le Sona, groupe dans lequel groupe de drag king qu'on avait créé avec lui. Donc tout ça, en fait, c'est aussi une histoire de famille et de création de liens et de comment on fait collectif. Et aujourd'hui, on continue d'échanger. Et t'en es où? Et tu fais quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est important aussi, en fait, c'est de se fournir des échelles et de se donner des marchepieds. Et en tout cas, moi, c'est ça qui me parlait dans la partie échelle collective et politique, en fait. Et le politique, c'est de faire corps ensemble. Et Louis, c'était mon daddy, en fait. On pourrait dire, c'est un jour, je vais faire un maquillage. Il a vu mon maquillage, il a fait ah, « Tu fais du king ? Viens, je ne suis plus seule !» Et on a fait Mumu's ensemble.
J'avoue que c'était... J'ai beaucoup apprécié te trouver en comparse de king. Ça fait du bien, ouais. Mm-hmm. Je sais pas si je peux dire que je suis un vieux du vieux par rapport au King à Nantes. Du coup, ça ramène sur les terres lointaines il y a quand même pas mal de temps. En 2017, on a eu un atelier avec Nozig et un atelier de drag king avec King Advitam Eternam qui est sur Paris. Ce fut un très bon moment et j'ai rencontré aussi Odette Christine là-bas. Et c'est vrai que de 2017 à 2000, enfin jusqu'à la période Covid, il n'y avait pas beaucoup de King. On n'avait pas de lien communautaire entre King.
À Nantes, tu veux dire ?
À Nantes, ouais. Ouais, oui, je parle de Nantes. Et après, tu es venue, tu m'as rejoint et il y a eu la création du collectif.
Parce qu'il y a eu la plaisir et aussi oui, parce qu'à ce moment-là, il y a eu l'explosion de Drag Race France, en fait. Mmh, qu'il y a plein de personnes qui se sont dit, ben en fait, peut-être... Enfin, moi, je veux faire ça, ouais, mais je veux pas faire ça. Et je pense que, enfin, moi, je me retrouve dans ce que disait Amanita, c'est que je voulais faire ça, mais je suis pas une queen. Mmh. Et toute la question de qu'est-ce que je peux être et comment je peux définir un caractère drag et qui a commencé par essayer des maquillages et ensuite par mettre une fausse bite dans mon pantalon et par voir comment je changeais ma posture de moi-même, parce que on change sa posture de soi-même quand on met une fausse bite dans son pantalon, c'est un fait. C'est-à-dire que allez savoir pourquoi tout à coup vous vous mettez à imiter votre daron ou je sais pas quel humain vous avez croisé précédemment qui marche avec les jambes écartées, et enfin c'est très étrange, mais on crée en fait une posture de soi-même et on va et là on interroge et là après on interroge, on dit ah mais du coup pourquoi je me tiens pas comme ça en fait, et ça nourrit aussi la personne qui est derrière le drag. Et moi le drag king que je ne pratique pas en tant que drag king maintenant a nourri ma personnalité et ma manière de me tenir au travail, ma manière de parler au travail, ma manière d'asseoir mon énergie et de dire en fait vous allez m'écouter. Et je pense qu'il y a même si on veut pas faire du drag, faire un atelier drag king, ça donne de la puissance en fait. Et ça, c'est parce que ça pose la question de où se situe notre puissance et comment on peut la récupérer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas, et ce n'est pas une question de genre, etc. etc. Mais du coup, en fait, et que ce soit, des mecs, mais il y a plein de mecs cis en plus qui ne sont pas cette catégorie d'hommes-là qui marchent avec les jambes écartées, etc., etc. Et qui peuvent profiter aussi de ok, viens, on va se déguiser en homme, et on va voir du coup qui je suis par rapport à ce déguisement, en fait, et où je me situe, et qu'est-ce que j'ai envie de garder, et qu'est-ce que j'ai envie de jeter aussi. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental dans l'appellation drag king. Je ne suis pas un drag king, mais c'est mon origine parce que c'est cette déconstruction-là qui amène à Faune.
Donc, tu es dans le post-king au final.
Je suis dans le. Il est hors de question que je performe la masculinité parce que je ne comprends pas comment performer la masculinité. Et que j'ai envie d'être libre sans avoir à justifier de mon étiquette. Et queer, ça ne me suffit pas. Et rien ne me suffit. I want it all.
Ben, ça donne trop envie, en tout cas.
Ouais, j'ai trop envie de faire un atelier, moi aussi.
Je vous invite très fortement et je rebondis sur... En fait, j'ai fait du coup aussi un atelier avec Victor Lemort. Et même si justement on ne veut pas faire de la scène, c'était très rigolo parce que du coup... Au dernier, il y a deux personnes qui ont fait le sac de parole. Les personnes font bah, « En fait, nous, on est là parce qu'on pensait qu'il allait y avoir des shows drag king, mais pas du tout que ça allait être nous, les kings, en fait. » On dit « Mais du coup, bon, on va quand même rester. » Et je pense qu'elles ont bien kiffé leur après-midi. C'était... Enfin, journée, d'ailleurs, parce que...
Non, non, on passe pas tout de suite au show drag. Non. Ça demande beaucoup plus d'introspection, de travail et de... On décortique tout, ça dépend pour qui, c'est vrai.
Des gens qui se sont jetés sur la scène. Enfin, on en a vu des gens qui se sont jetés sur la scène en une fois et qui ont fait « Allez, je suis libre
oui. !» Oui, c'est vrai
que ça dépend des gens. Néon Vilain, il a fait un atelier et le soir même, il était sur scène.
Du coup, Victor, c'est ton papa, en quelque sorte.
S'il se permet d'un rang d'Amanita.
Bonne question.
Peut-être pour la partie... Bah, je sais pas. En tout cas, je lui dis pour le deuxième atelier, parce que quand je lui ai reparlé du premier atelier qui était assez particulier, on a pu faire que le cercle de parole, je lui dis, mais ce cercle de parole-là m'a permis alors, soit de mettre la graine, soit, ou plutôt d'arroser la graine pour que je puisse monter sur scène. Donc pour vraiment pour dire, bah si, en fait... Bah ouais, je ferai pas du drag queen, mais je veux faire quand même de la scène. Je sais que c'est ce que je veux faire, je veux faire du drag. C'était très difficile pendant, je pense, un an où je me dis, en fait, je suis pas légitime à faire du drag. Je me dis, peut-être que je vais commencer à faire du drag et qu'en fait, je veux dire que je suis artiste performeuse et pas drag.
Et je pense que là, on peut poser la question de finalement, qu'est-ce que c'est le drag ? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, nous, quand on regarde Drag Race, on voit du super maquillage. Mmh. On voit des costumes spectaculaires. On voit du lip sync. On voit quoi ? On voit plein de choses. Et en fait, chaque drag n'est pas obligé d'utiliser tous ses outils, déjà d'une part. C'est-à-dire qu'il y a des drags qui ne se maquillent pas ou très peu. Il y a des drags dont la marque de fabrique, c'est de se maquiller à la truelle. Hein, c'est d'avoir les maquillages les plus horribles possibles. Il y a des drags qui ne font pas de lip sync. Il y a des drags qui chantent. Et en fait, quand on voit Small Toy Deserter, Amanita Aura ou moi sur scène, on ne fait pas le même drag. Et on n'est pas les mêmes, on n'est pas du tout les mêmes artistes performeurs. On n'a pas les mêmes codes. Et la question se pose réellement, en fait, de quelle est la légitimité de telle personne quand elle monte sur scène pour faire du drag. Mais en fait, la légitimité, c'est celle qu'on se donne parce qu'on est une identité et qu'on rend visible d'autres identités en visibilisant la nôtre. Et c'est ça aussi qui est important. Et du coup, il n'y a pas de bonne manière ou de bonnes personnes qui peuvent faire du drag. Tout est à la limite de tout. On peut faire du drag burlesque, on peut faire... Et en fait, je pense que c'est déjà l'espace dans lequel on performe qui est défini si on fait du drag. Si je fais du drag sur une scène drag, ben je fais du drag. Mais peut-être je peux faire du drag aussi sur une scène burlesque. Et il y a des performeuses burlesques qui font du drag parce qu'ils viennent sur des shows drag. Et tout ça, c'est quand même très, très mélangé. Et il ne faut pas, essayer de coller une étiquette au drag. Parce qu'en parlant de Soie de Muse, moi, la première fois que j'ai vu Soie de Muse, je ne suis pas sûre que c'était du drag. C'était du cabaret. C'était une performance hyper intense sur la race. Et je ne suis pas sûre que c'était du drag. Mais c'était peut-être du drag. Et en fait... Ouais, enfin, on est libre en fait. Et le drag, c'est aussi se permettre d'être libre et d'inventer son moyen d'expression pour représenter son identité. Parce qu'en fait, on est tous différents et c'est ça qu'il faut célébrer. Et c'est ça qu'on veut célébrer dans la queerness, dans le milieu. Et pas que dans la queerness d'ailleurs. Et tout le monde devrait célébrer ça. Et voilà. Et dans Et la visée politique, c'est ça, c'est de célébrer nos différences et de dire que nos différences ont le droit d'exister et ont le droit d'être vues et doivent être vues.
Mmh. Pour le Talk Disorder, je voulais te poser la question parce que tu avais l'air de parler d'une temporalité plus longue sur la construction du personnage par rapport à Manita. Est-ce que c'était le cas pour toi, pour ta construction en tant que performeur drag?
En fait, oui, je me rends compte que oui, par rapport à l'extrait que j'ai lu, par rapport à mon expérience dans le collectif. J'ai commencé peut-être en 2017, j'ai fait des petites choses par-ci par-là jusqu'à 2024, en ce moment je suis en pause. En gros, moi mon personnage il a mis du temps à prendre forme, j'ai testé du drag king, du drag queer, du drag queen, j'ai testé un peu tout. Sortir de la zone de confort pour au final arriver que j'ai trouvé plus ou moins mon personnage, un personnage le plus bof de la région, qui est vraiment axé sur des traits masculins, enfin tout ce qui est masculinité toxique, virilité, sueur et tout ça. J'adore. Je kiffe. C'est, je sais pas, on parlait du post-king tout à l'heure. Moi, je suis peut-être un peu ancrée dans le king bien dur, mais j'aimerais aussi passer la barre ou la limite du post-king en justement en mettant en PLS le système et montrer ma vulnérabilité et ma séduction. Voilà. La séduction dans avec la masculinité, ouais, tout ça, tout ce bordel, quoi.
C'est ouf parce qu'il y a énormément d'intime dans vos témoignages alors que c'est quelque chose que vous faites publiquement, quoi. C'est de la performance publique mais qui sort des tripes, quoi. Ça se sent quand on vous écoute. Je suis un peu émue, j'avoue.
Et bah, du coup, on va clore la partie discussion ici. Merci encore pour ces échanges et ces partages. Et on est toujours ravis de découvrir et creuser des sujets qui nous parlent. Et avec des gens toujours hyper intéressants. Et ça ouvre des portes, ça renforce le lobby gaucho, wokisto, féministo, queero, apéro, je ne sais pas. Et on va
maintenant se plonger dans les références culturelles en vous invitant dans la librairie des Arpètes qu'on retrouve juste après ce morceau de Dorian Electra, Career Boy.
One thing on my mind, a cheap office coffee, these pumping through my veins. I work for the man, yeah, but you know I love the change. I can never fight the feeling, I stay up all night, working so hard after hours till I see the sunlight. Stuck up in my office. Me working overtime, yeah, career boy, and you know I got that one track mind, oh yeah, even after I get what I want, I can see baby, baby, that it's lonely at the time, yeah, career boy.
C'était Career Boy de Dorian Electra et vous êtes toujours sur la fabuleuse Radio Prune chez les punks du club de lecture que sont les Arpètes. Ici, on déchire du bouquin, mais pour mieux capter sa substantifique moelle. On va compléter la discussion qu'on vient d'avoir avec nos invités avec des références culturelles dans la librairie des Arpètes.
Où est le livre ?
À la bibliothèque.
Et la musique danse ?
À la discothèque.
Et les discothèques ?
Zézé, bébé. Un, deux, trois.
Donc là, l'idée, c'est de tous te présenter un peu des refs culturels qu'on a sur le sujet. On en avait deux, trois, mais si vous avez des choses à apporter,
on vous laisse commencer.
Est-ce que je peux commencer par l'agenda nantais ?
Vas-y.
Allez.
si vous avez jamais vu du drag, si vous ne connaissez pas de drag à Nantes, alors il y a plusieurs espaces. Alors le drag, ça se passe beaucoup sur Instagram. Désolée, il faut aller chercher sur Instagram. À Nantes, donc nous, on a tous plus ou moins débuté à cause des paillettes parties, qui existent encore, que vous pouvez trouver très facilement. Aujourd'hui, la paillette partie a créé une deuxième, un enfant qui s'appelle le Boum Boum Karabaré et qui est une scène ouverte qui se joue à La Plaisir Biscotro Queer, qui est un espace qui propose souvent des shows drag, qui a une programmation queer et qui essaye de faire voler un peu les gens queer qui veulent faire de l'art. Donc, si vous suivez cette page, vous trouverez probablement des événements drag. Moi, je vous conseille avec amour le cabaret beurre salé de Catherine Bézanville. La scène ouverte de Jeudi sans dimanche. Allez suivre Jeudi Coaster pour ça. Vous trouverez aussi dans les gros événements où on fait du spectaculaire, où c'est la teuf, où c'est incroyable. Il y a la Dragma organisée par la House of Drama, que pareil, vous trouverez en tapant House of Drama. Et bien sûr, le lab chez La Baronne qui accueille des stars national quand même, et si vous voulez voir les personnes qui ont participé à Drag Race, en général vous avez des risques de les voir là-bas.
J'avais vu Piche,
voilà,
qui était au niveau de sa légende.
Exactement. et c'est oh, si beau. Moi, j'ai rencontré Ellipse. Oh, incroyable. Ah, oui. Et vous pouvez aussi suivre aussi le compte de l'ancien du Sona, que nous avions créé ensemble et qui s'est délité petit à petit. Le compte va rester pour pouvoir promouvoir d'autres événements drag, et je vous annonce en avant-première à la radio, parce que de toute façon personne d'autre nous demandera, le bal des débutantouses animé par Ibuprofème et moi-même, issu du Sona. L'histoire du Sona, c'était qu'on voulait rester des drags ensemble et qu'on voulait faire vivre le drag king à Nantes. En tant que collectif, on n'y arrive pas, mais on voulait garder un espace. Et le compte du Sona sert aujourd'hui à donner cette visibilité-là. Et nous, on va animer une scène de débutants, entre guillemets, drag king, queer, bizarre. Les gens qui veulent faire une première scène et qui veulent qu'on leur fasse des câlins pour leur première scène, et ben on sera là pour eux. Donc, vous pouvez toujours suivre le collectif du Sona, même si le collectif du Sona n'existe plus en lui-même. Ça vous permettra de trouver d'autres artistes drag.
Et il y a une date pour ce bal des débutants tous ?
C'est le 28 juin et ce sera au Poum Poum Tchak.
Alors moi, je ne lis pas. J'ai un problème avec la lecture. Du coup, moi, j'invite à parler avec les gens, en fait. moi, c'est comme ça que j'apprends beaucoup de choses. Les gens qui sont concernés ou aussi même les gens qui ne sont pas directement concernés, mais qui, eux, se renseignent. moi, j'apprends aussi via Instagram, sur certains comptes, en fait, sur un compte Instagram qui s'appelle Intrépide Studio. En fait, il y a des... Moi, je suis plutôt genre, quand il y a des images, c'est plus facile que quand il n'y a que du texte. Et du coup, il y a des jolies images, des petits dessins avec du texte et des petites définitions. Donc, voilà. De comptes Instagram qui, pour moi, sont... En tout cas, me permettent d'avoir des informations facilement sur plein de choses. Un compte qui s'appelle Morgan Noam et le compte d'Agressively Trans.
Il faut soutenir parce qu'elle galère de ouf en ce moment et qu'elle s'en prend plein la gueule.
Voilà. Et il y a une série, alors, la série qui s'appelle Pause, qui a été diffusée entre 2018 et 2021. Qui parle du milieu de la culture de ballroom et du voguing, où il y a notamment l'actrice militante Dominique Jackson, qui est une actrice trans noire, et l'acteur et chanteur Billy Porter, qui est aussi un acteur noir aussi.
Oui, j'ai des petites recommandations à faire, toujours moins spontanées. Toujours plus carré.
J'adore.
Ouais.
J'adore.
C'est un DVD Sex Révélation. C'est une trilogie d'histoires racontant la vie lesbienne aux États-Unis dans trois décennies différentes. Et il y a une des histoires qui m'a particulièrement frappée, qui m'a interpellée avant mon passage au drag king. C'est
dans J'aime pas, c'est mis une jeune femme androgyne, mais j'irais peut-être butch ou transgenre, qui vit une relation amoureuse avec une jeune femme. Et j'aime beaucoup l'allure masculine et les attitudes libérées. Voilà. Qu'elle sait même résister au jugement d'autres femmes, peut-être lesbiennes, cis ou même des hétéras cis. Une autre recommandation, c'est le recueil de photos de Sébastien Lichfield qui date de 2012, Les Invisibles, où il y a plein de clichés de toute la communauté LGBT. Ensuite, le mythique Stone Butch Blues, l'histoire de Jess dans les années 50, militante transgenre et communiste révolutionnaire. Et c'est hyper intense, puissant et vulnérable à la fois. Il faut prévoir pas mal de boîtes de mouchoirs. Aussi, par rapport à l'étude du document, il a mention de Violette Maurice et j'invite à découvrir son histoire et je ferai sans doute la même chose. Violette Maurice, c'est en 1900, enfin, dans les années 1900, c'est une puissante sportive de son époque. Elle a utilisé la subversion des lois de genre et participé à la construction d'un étau masculin. Et en 1930, elle perd un procès par rapport à cet étau masculin. Et je vous invite à découvrir son histoire qui est très récente. Vous la retrouvez en sous BD ou sous roman.
Voilà, je peux donner ma librairie. Parce que j'aime beaucoup les livres. Mais je ne vais pas tout vous donner parce que sinon on n'en finit jamais. Un conseil de, de saga Heroic Fantasy que toute personne qui ne se sent pas tout à fait... comme il faut, devrait lire quand il est ado, quand il ou elle est ado. C'est La Dernière Geste de Morgane Ovgenko, qui est une autrice non-binaire bretonne, qui joue de la harpe, qui est ouf. Et c'est un roman qui est d'une grande facilité à lire et qui, en même temps, pose plein de bases politiques sur le consentement, sur la justice transformatrice, et tout ça dans un univers qui est hyper accessible et hyper fun. Et qui est un mélange de manga, de Bretagne, de tout. C'est un grand délire fantastique qui est assez génial à lire et qui est accessible à tout le monde et que je pense que j'aurais aimé lire quand j'étais jeune parce que ça fait du bien.
Merci beaucoup pour toutes ces références que nos auditeuristes pourront retrouver sur la page de l'émission sur prune.net où vous pourrez également retrouver l'émission en podcast d'ici quelques jours. Un grand merci à nos invités, Amanita, Aura, Faune, Small Toy Disorder, pour vos éclairages et vos témoignages. Et merci à Léo, à la technique.
Il est donc l'heure de se quitter et de vous laisser voguer vers la prochaine émission. On vous laisse avec Leonard Cohen et son morceau « I'm your man ».
Est-ce qu'on peut vous dire pourquoi cette chanson ?
Vas-y.
Cette chanson, c'est... ça vient d'une série qui s'appelle The L Word, qui est la série que la plupart des personnes lesbiennes du monde ont vue, hein, clairement. Et c'est le premier drag king qu'on a vu à la télé dans les années 2000. Et c'est un personnage extraordinaire. C'est une performance de drag king qui est faite sur cette chanson et que vous voulez voir parce que vous n'avez jamais rien vu d'aussi sexy.
Est-ce que chaque personne qui débute le drag part pas passe par cette étape de The L Word et la séquence.
Je suis pas sûre, mais en tout cas, on est très 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 nombreux et nombreuses à l'avoir vu.
Très bien. Eh bien, on retient.
C'est le mot de la fin. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Et merci.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand.